Bonsoir. Neutralisation des groupes armés. Plus de 800 combattants Mai Mai de l'UPLC se sont rendus la semaine dernière au FRDC à Kalunguta, localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni au nord Kivu. Au cours d'une cérémonie organisée à cette occasion, ces combattants ont remis symboliquement une trentaine d'armes au chef d'état-major général des FRDC. Pendant ce temps, à Bunia Nituri, environ 1500 combattants et leurs dépendants attendent depuis plus de 2 mois leur cantonnement pour le programme DDR. Quelle lecture faire de cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Maître Juvenal Monumbo Mubi, il est député national élu de Walika, le Nord Kivu et cadre de l'INC. Il est rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Monumbo Mubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire. Et bonsoir Monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir.
Et lui, c'est Claude Ibalanki, je crois qu'il n'est pas encore là, il va nous rejoindre, le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord au cadre d'Addis Abeba MNS en sigle. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, au moins 820 combattants Mai Mai de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC en sigle, viennent de faire leur reddition au FRDC. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée il y a quelques 4 jours à Kalunguta, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Beni, où ces combattants sont regroupés depuis 5 mois. Selon le porte-parole de FRDC, au cours de cette cérémonie, ces combattants ont remis symboliquement une trentaine d'armes au chef d'état-major général des FRDC. Le général Léon Kasonga appelle également d'autres groupes armés à déposer les armes. Il est le porte-parole des FRDC. On le suit au micro de Martial Papi Moukeba.
Grâce à la pression militaire, mais également grâce au soutien manifeste de la population, mais également de l'UTCHA, nous sommes parvenus à obtenir la reddition de beaucoup de mouvements et groupes armés, parmi lesquels le dernier en date, c'est le groupe UPLC qui a remis au chef d'état-major général de forces armées les armes qui sont devant vous ici. Ce groupe a dit « Je ne veux pas continuer à rester dans la forêt ». Nous lançons un appel, un dernier appel, en direction de tous les groupes armés locaux et étrangers qui se croient capables de nous résister. Nous disons à ce groupe, il est temps maintenant, parce qu'après cela, ça sera tard.
Pendant ces temps, à Bunia, Nituri, environ 1500 combattants et leurs dépendants attendent depuis plus de 2 mois leur cantonnement pour le programme DDR. Ces miliciens de la FRPI se sont tirés dessus dimanche sur le site des pré-cantonnements d'Azita, où ils s'étaient pourtant rendus volontairement pour rejoindre le processus de paix. Des miliciens ont été tués par balles et 5 autres blessés. Monsieur Claude Ibalanki, est-ce que vous êtes là? Il n'est pas encore là. Maître Juvenal Monumbo Mubi, député national élu de Walika, au Nord Kivu et cadre de l'UNC, vous êtes aussi rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Plus de 800 miliciens de l'UPLC se sont rendus la semaine dernière, mais entre-temps, à Bunia, vous avez suivi, et plus de 1500 combattants et leurs dépendants attendent depuis plus de 2 mois leur cantonnement. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'entrée de jeu saluer Claude Ibalanki, avec qui je participe dans cette émission, tout comme M. Didier Bitaki. Et je salue encore une fois tous les auditeurs. Disons que c'est un moment d'opportunité, au fait. Vous savez, avec le changement intervenu sur le plan politique au Congo depuis le début de cette année, c'est-à-dire il y a l'alternance des nouvelles autorités, un nouveau président, un nouveau gouvernement, une nouvelle Assemblée nationale constituée, et une nouvelle commission de défense et sécurité aussi. Disons qu'il y a une nouvelle donne, il y a un nouveau contexte. Et dans ce nouveau contexte, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs groupes armés, que ce soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri, qui se disent prêts à déposer les armes. Et donc, ce moment doit être vu par les décideurs comme un moment d'opportunité. Vous savez, en matière, pour mettre fin aux groupes armés à l'est du Congo, surtout les groupes armés, je dis bien surtout les groupes armés locaux, il faut toujours de la politique de la carotte et du bâton, comme on dit. Les bâtons, c'est les opérations militaires qu'on annonce. Et ici, comme vous le savez, j'ai eu à faire savoir ma position, c'est qu'on ne veut pas des opérations militaires conjointes avec des armées étrangères. Cela a été dit, même au cours d'une émission Dialogue entre Congolais. Mais des opérations par l'armée congolaise, nous soutenons cela pour restaurer l'autorité de l'État. Mais il faut toujours ajouter au bâton la solution de la carotte. Et la carotte ici, c'est le DDR. C'est-à-dire, il faut proposer des alternatives à ces miliciens pour qu'ils soient utiles dans la société, parce qu'on peut utiliser leurs énergies comme main d'œuvre aussi pour les développements, pour les routes, etc. Et donc, le moment semble être un moment d'opportunité où plusieurs groupes se disent prêts à déposer les armes. Que ça soit l'ILPC, comme cela a été dit ici, FRPI, et bien d'autres, hein, que ça soit dans les Masisi. J'ai parlé avec des leaders des Masisi, des Walikale, un peu partout au Sud Kivu. Beaucoup de groupes armés se disent vouloir déposer les armes.
Donc, comme vous le dites, un moment d'opportunité, étant donné qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau régime. Mais pourquoi, à votre avis, cette problématique de la maîtrise des effectifs dans ces groupes armés, ainsi que de leur matériel de combat, n'est toujours pas résolu?
Alors, il y a des chercheurs qui ont mené des études dans ce sens-là, mais c'est vrai, ce ne sont que des estimations. Il y a par exemple le groupe d'études sur le Congo qui estime les groupes armés à plus de 100 à l'est du Congo. C'est très difficile, je comprends aussi, de mener une estimation parce que ces groupes sont nombreux. Au fait, et pourquoi il y a eu la pérennisation de ces groupes? Parce qu'il y a eu les échecs aussi du programme DDR, des programmes DDR. Donc c'est pas la première fois qu'on parle du DDR ou qu'on appliquera un programme DDR. Il y a eu les DDR1, les DDR2. Tout a commencé, je crois, en 2004. Il y avait à l'époque la CONADER et le programme national DDR. Il y avait les financements aussi. Il y avait non seulement un programme, il y avait des financements aussi, des partenaires. Il y avait les financements MDRP, des partenaires, de la Banque mondiale. Mais la gestion n'était pas bonne. Hein. Ce n'était pas une gestion exemplaire du DDR1 et même du DDR2, parce qu'il y a eu des minces résultats. Et la plupart des cas, des combattants qui ont quitté la brousse n'ont pas été réinsérés comme il se doit dans la société. Il y a ceux qui n'ont pas reçu des kits adaptés aux milieux. Dans une zone de montagne, vous donnez par exemple des vélos, ça n'ira pas. Il faut peut-être donner des houes pour l'agriculture. Et donc, il y a eu des kits de réinsertion qui n'étaient pas adaptés. Il y a eu des cas où on a amené des ex-combattants loin de leur milieu d'origine et le cantonnement a duré longtemps et sans qu'ils ne sachent quoi faire exactement. C'était à Kitona, c'était à Kamina. Je crois qu'on a suivi tout ça. Et donc, il faut faire attention. Lorsqu'il y a, par exemple, les ILPC, on dit qu'ils sont cantonnés depuis plusieurs jours, quoi.
Oui.
Plusieurs mois.
Ça fait 5 mois.
5 mois. Et donc, c'est des choses qu'on doit éviter. Uh-huh. Hein, tout comme les FRPI à Nitouri, d'autres peut-être dans les Massissi ou à Likal, ils voudront bien déposer les armes ou au site qui vont. Et donc, ça m'amène à parler de l'urgence du DDR. Uh-huh. Le DDR3 dont on parle, il faut finalement lancer ce DDR en indiquant les financements, comment ça sera fait, quelles sont les activités que l'État donne pour attirer les miliciens, les éléments des groupes armés. Et voilà, et le financement aussi doit suivre. Il faut une part importante aussi du budget congolais. Il ne faut pas attendre tout des partenaires extérieurs. Parce que souvent, ce qui fait défaut, c'est que le gouvernement, dans le passé, le gouvernement a attendu des partenaires. Alors, il faut qu'il y ait une contribution congolaise. Je crois que c'est à ce niveau qu'on n'est pas encore arrivé.
Voilà, vous avez évoqué les difficultés que nous avons connues. Vous rappelez que les partenaires ont donné des financements importants, mais la gestion n'a pas été bonne par les Congolais. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, on ne peut pas reconnaître que ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas, de réussir un programme DDR? Nous rappelons ce qui s'est passé au Mozambique avec le frère Limon Renamo. Nous rappelons ce qui se passe actuellement en Colombie avec les FARC. Est-ce que au-delà des appuis financiers et tout ça, est-ce que le programme DDR lui-même n'est pas difficile à mettre en place?
C'est pourtant facile de le mettre en place. Si on mène une consultation avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes. Donc c'est un processus qui doit être participatif, les programmes DDR. Et puis il faut identifier les besoins et c'est tout ce qui est adapté dans le milieu. Donc le DDR, c'est pas un programme qui doit se concevoir dans les bureaux climatisés, loin. Et sans tenir compte des avis des uns des autres. Raison pour laquelle moi j'encourage, par exemple, il y a une dynamique qui a lieu maintenant là au nord, au sud Kivu. Hein. Il y a des acteurs qui se réunissent. Il y a aussi l'implication des gouvernements provinciaux du nord Kivu et du sud Kivu. L'idée c'était qu'on ait une sorte d'arrêté, je crois que c'est déjà fait, arrêté interprovincial hein, par rapport au DDR. Et il y a ce qu'ils appellent DDR communautaire. DDR communautaire c'est quoi? En fait c'est une nouvelle approche du DDR. Les acteurs de la société civile au nord, au sud Kivu ne souhaitent plus que les éléments des groupes armés, une fois séparés des groupes armés ou libérés des groupes armés, ils ne souhaitent plus qu'ils aillent loin. Hein, et que les cantonnements se fassent très loin comme à Kamina, comme à Kitona, et qu'ils restent là-bas sans rien faire. Parce que ce qui est arrivé dans le passé, on les a amenés loin des milliers de provenances, et là ils sont restés sans une orientation professionnelle, et sans savoir exactement ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et donc faire du DDR autrement, avec une nouvelle approche qu'on appelle DDR communautaire, ça serait d'utiliser l'énergie de ces jeunes-là qui sont dans des groupes armés, au profit finalement du développement. C'est soit une route, c'est soit les travaux à haute intensité de main d'œuvre, soit une route, qu'on lance les travaux de réhabilitation d'une route et on utilise l'énergie de ces miliciens. Et là, ils deviennent utiles à la société. Ils cessent les métiers des armes, ils travaillent au profit de la communauté en espérant trouver aussi quelque chose, une prime ou un salaire.
Alors, donc, le fait de se rendre, même volontairement, signifie qu'il faut faire table rase sur les actes répréhensifs qui ont été commis par des miliciens, comme des assassinats, des tueries, des viols ou des enlèvements. Est-ce qu'il faut faire table rase parce que les miliciens ont déposé les armes?
Vous savez, dans un processus comme ça de sortie des crises, il y a les crimes. Les crimes ne peuvent pas être couverts par des pardons ou des mesures de pardon ou d'amnistie. Les amnisties concernent le fait des guerres, les faits insurrectionnels. Mais les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, eh bien, tombent tout naturellement dans l'escarcelle de la loi pénale. Et donc, je suis juriste et je ne pense pas pouvoir plaider pour l'impunité à ce niveau ici. Donc il faut toujours faire la part des choses. S'il y a des crimes qui ont été commis, tout naturellement, la justice congolaise doit s'en saisir. Et si la justice congolaise n'est pas à mesure de les faire, ou si les moyens de recours ont été dépassés, eh bien, il y a la justice internationale aussi, il y a la Cour pénale, et donc là, c'est très clair. Mais il y a l'effet de guerre. Avoir constitué un mouvement insurrectionnel peuvent être pardonnés au moyen d'une loi d'amnistie. Et donc, les appels, c'est vrai, les FRDC lancent les appels. Même là, je viens de suivre le porte-parole des FRDC, c'est bien. Mais il faut pas laisser les ex-combattants longtemps en cantonnement ou en pré-cantonnement. Vous avez évoqué les cas de l'Ituri.
Hein,
donc, si vous les laissez longtemps...
Il y a eu des morts.
Il y a eu même des morts. Et donc, il faut faire attention. Le gouvernement doit vite lancer les programmes DDR et indiquer les filières de réinsertion, accélérer les processus. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut partir. Et l'Assemblée nationale devrait aussi suivre particulièrement cette question. Il y a une commission qui a été mise en place, la commission de défense, dans laquelle je suis rapporteur, honorable Jeannette Kaby, la présidente. Et donc nous devons suivre de près, et nous en ferons en tout cas notre préoccupation dans les très prochains jours.
Merci, nous vous avons annoncé Monsieur Claude Ibaranki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba MNS en sigle, mais il vient de s'excuser, il vient d'être appelé d'urgence. Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire, comment vous réagissez à cette nouvelle faisant état de la reddition des plus de 800 miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC en sigle?
Je salue d'abord l'honorable Juvenal, avec qui j'ai débat sur cette question. C'est pas la première fois que nous discutons de cette matière ici, précisément. La réduction de plus de 800 combattants, je sais pas comment est-ce que les gens perçoivent ce qu'on appelle les réductions. Parce que dans le territoire où ils opéraient, disons, Je ne pense pas qu'il y ait eu un groupe formellement identifié qui compterait au moins 800 combattants. Il n'y en avait pas dans le passé, comme hier même. Alors, on annonce un tel chiffre, bon, c'est à prendre sous réserve. Et ensuite, faut-il savoir si réellement ceux qui se sont rendus sont des combattants appartenant à un groupe ou à des mouvements armés. Moi, je ne pense pas. Parce que cette question ou cette problématique des groupes armés prête à confusion lorsqu'on essaie d'interpréter la manière dans laquelle ou avec laquelle elle est traitée. Les groupes armés qui existent à l'est du pays sont connus et identifiés avec leur chef. Mais celui-ci dont on annonce la reddition, je ne sais pas, est-ce qu'on connaît le chef de ce groupe-là? Est-ce qu'on connaît où est-ce qu'ils opèrent? Dans la même zone, vous avez les ADF qui sont là. Alors, comment est-ce qu'on comprendrait qu'il y aurait un groupe constitué de 800 combattants qui se rend volontairement? Ça, qu'on sache exactement l'impact que cela apporte sur le plan de la sécurité dans la région. Donc moi, je remets ça sur le compte du folklore qu'on a toujours attendu, que des combattants se sont rendus, un mouvement s'est dissous, ainsi de suite. Mais les vrais groupes armés qui posent problème à la République existent. Ils sont réellement connus dans cette partie du pays. Pourquoi est-ce qu'on évite d'aller vers eux et les faire sortir? Pourquoi est-ce qu'on évite d'en parler, mais plutôt chercher des astuces ou de justifications de moyens de l'État ailleurs? Comme par exemple à Nitouri, voilà l'impact de ce que nous qualifions de manœuvres dilatoires souvent qu'on a toujours observées dans le compte, dans les camps du gouvernement lorsqu'il s'agit de traiter le groupe armé. Le FRPI est un groupe qui a posé beaucoup de problèmes à la République, notamment à Nitouri. Ce groupe-là, lorsque ses combattants se rendent, c'est en ce moment-là que le gouvernement devait réellement jouer son rôle de garant de la paix, mais aussi rassurer ces derniers pour qu'ils ne puissent recourir à des moyens violents afin de revendiquer leur droits tels qu'ils le pensent. Mais malheureusement, il y a déjà des incidents. Et d'autres vont se reproduire. Parce que ce n'est pas la fin. C'est un comportement qu'on connaît de la part des autorités de la RDC de tout moment et à tout moment. Alors, on en est fatigué. Moi, je pense que pour cette question des groupes qui prétendument s'étaient rendus avec ces 800 combattants, on les prend sous réserve, mais on aimerait bien conseiller le gouvernement à pouvoir faire plus, faire davantage pour que cette question soit totalement résolue. Sinon, dans les conditions où nous sommes, en tout cas, je pense que la reddition de ces 800 combattants n'a aucun impact sur la sécurité dans la région. Or, la reddition attendue de groupes armés suppose le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État dans les zones où les différents groupes opèrent. Mais lorsqu'un groupe se rend et qu'on ne rétablit pas l'autorité de l'État et qu'on n'impose pas le pouvoir public dans la zone, ça suppose que ce n'est pas un vrai groupe qui s'est rendu, mais le vrai groupe reste et qu'il faut démanteler. Voilà comment est-ce que je conçois la question.
Didier Bitaki, par rapport à ces groupes armés plutôt qui, dont 800 miliciens se sont rendus, UPLC, et vous savez que nous sommes dans une zone bénie, en fait la province du Nord Kivu qui regorge beaucoup de une panoplie de groupes armés, et c'est vraiment une nébuleuse. Et vous pensez qu'on peut arriver à identifier chaque groupe armé quand on sait que il y a des groupes armés qui naissent aujourd'hui, le lendemain ils se dissoutent, ou après le lendemain il crée une coalition avec un autre groupe armé? En fait, c'est une nébuleuse. Est-ce que vous pensez qu'il est facile de pouvoir identifier tous ces groupes armés?
Écoutez, quand on parle d'abord de groupes armés, je ne sais pas comment est-ce qu'on les conçoit. Parce que les groupes armés ont des motivations qui font qu'ils prennent les armes et peut-être qu'ils se rebellent contre l'État. Maintenant, celui qui se rebelle contre l'État, vous n'allez pas le prendre pour un inconnu. Il doit avoir une identité. Faut-il savoir? Dans la même zone où nous avons 21 000 militaires qui venaient d'y être déployés. Ils se sont battus contre quel groupe jusqu'à les forcer à se rendre? Je ne pense pas, s'il vous plaît. Ce qu'il faut se dire ici est que il y a de l'affairisme dans cette affaire de groupes armés. On ne cessera de le dire. Les gens fabriquent du n'importe quoi et ils présentent à l'État congolais pour gaspiller le moyen de l'État qui devait servir à autre projet de la République. Je pense que en prenant ces groupes-là, moi, je voudrais assez que, comme on l'a dit, que les DDR s'appliquent dans la réinsertion. On va savoir où est-ce qu'ils sont réinsérés, où est-ce qu'on les amène, qu'est-ce qu'ils exigent, quelles étaient leurs revendications
avant qu'ils ne prennent les armes. On doit le savoir. Mais moi, je n'ai jamais vu un groupe constitué de 800 hommes dans le territoire de Beni et qu'on dise qu'effectivement, le groupe s'est rendu. Ça qui est un impact, non. Non, en tout cas, non.
Didier Bitaki.
S'il vous plaît, je vous cite le groupe d'Ale Massissi comme le groupe APCLS. C'est un groupe connu. Le groupe NDC, c'est un groupe connu. Le groupe, c'est un groupe connu. Le groupe d'Ale Kale, il y a le groupe Kirikicho, ainsi de suite, et d'autres. Mais lorsque on parle de cet autre, là, IPLC, je ne sais comment, je voudrais savoir où sont les responsables de ce groupe-là. Est-ce que c'est un groupe qui était formellement constitué parce qu'il porte déjà une appellation? Est-ce que ce groupe-là opérait réellement dans cette zone? Est-ce que les combattants, soit disant rendus, avaient de moyens qui leur permettaient d'opérer effectivement dans cette zone? Donc ce sont ces questions-là auxquelles d'abord il faut répondre pour prendre un combattant et lui donner des moyens, lui faire bénéficier du DDR.
Voilà.
On est en train de tourner à rond dans le même contexte que les anciens combattants démobilisés de 2003, de 2006, de 2010. Ce sont les mêmes qui reviennent, demain ils rentrent, encore lui reviennent, et pourtant, le vrai groupe reste, s'il vous plaît.
Oui, Didier Bitaki, même pour les vrais groupes, comme vous les qualifiez, les groupes qui sont connus, j'ai posé la même question à Maître Juvenal Munubo Mubi. On n'arrive toujours pas à solutionner cette problématique de la maîtrise des effectifs dans ces groupes armés ainsi que leur matériel de combat. Comment vous expliquez cela?
Bon, faut-il d'abord savoir que ce groupe se rend dans quelles conditions, dans quel contexte? Parce que lorsque un combattant vient, il vous dit que moi j'ai appartenu à tel groupe. Mais est-ce que réellement il était combattant? Je suis en train de vous parler ici du recyclage de ceux qui viennent vers les DDR. Ce sont les mêmes, ils n'ont jamais changé. Le problème qui se pose ici n'est pas un problème, ne concerne pas plutôt le nombre de groupes ou le nombre de combattants. Le problème concerne la volonté du régime, la volonté du pouvoir à aller vers le problème et le résoudre. Est-ce qu'il y a de la volonté politique à résoudre ce problème-là? S'il y a de la volonté politique, il y a des pistes. On a sorti tout un chapelet de propositions qu'on devait appliquer afin de mettre fin à ce cycle-là, mais personne ne s'y implique. D'ailleurs, je regrette que le coordonnateur du mécanisme national de suivi ne soit dans ce débat, qu'il se soit excusé. Je l'aurais dit ouvertement combien on a donné de propositions et de pistes stratégiques, des solutions pour résoudre cette question, mais malheureusement, personne ne les applique. Donc, de mon côté, je dis, c'est pas de la faute de ce groupe, c'est de la faute de l'autorité qui ne s'implique pas pour rétablir la paix. Et il faut les reconnaître.
Voilà, donc ce n'est pas de la faute de ce groupe, mais avec le temps, certains groupes armés ont commencé à collaborer avec des groupes armés étrangers. Est-ce que cela ne va pas constituer un obstacle pour des groupes qui voudraient déposer les armes lorsqu'ils se rappellent qu'ils ont pris des engagements avec des étrangers?
Le groupe qui traite des alliances ou qui collabore avec des groupes armés étrangers, bon, ça c'est un problème technique ou tactique de leur part. Mais est-ce que on a approché ce groupe-là et ils ont refusé de déposer les armes? C'est ça la grande question. Parce qu'il faut les approcher. Pourquoi est-ce qu'ils s'allient, ils coalisent avec des étrangers? C'est parce qu'en face, il n'y a pas d'interlocuteur. Quand ils se tournent vers la République leur tourne les dos malheureusement. Bon, ils vont collaborer avec qui? Pour leur survie, ils font cela et factuellement, c'est justifiable. Mais ce qu'il faut retenir est que il est impossible de traquer ou de désarmer les groupes armés étrangers sans que la question des groupes armés nationaux soit résolue. Or, pour les résoudre, ce n'est ni par la voie de la violence qui a montré ses limites dans le passé autant de fois qu'il faut passer. Il faut passer plutôt par des voies pacifiques de manière à ce qu'on rassure ces différents combattants et lorsqu'ils seront rassurés, ils déposeront les armes d'eux-mêmes. Mais quand on y va avec la violence, c'est impossible, ça ne résoudra jamais le problème. Mais maintenant, lorsqu'on cherche à traquer les groupes armés étrangers, qui se réfugient derrière les groupes armés nationaux, et vous dites que vous allez les désarmer, pourquoi ne pas d'abord réussir à désarmer ceux qui sont devant, avant d'arriver auprès de ceux que vous visez? Mais on ne veut pas résoudre cela de cette manière, malheureusement, comme ça profite à beaucoup de gens qui, en tout cas, vident les caisses de l'État, sous prétexte qu'ils sont en opération contre tel ou tel autre groupe, c'est ça ce qui fait que cette question perdure. Et ça doit maintenant cesser parce qu'il y a de nouvelles autorités qui, je l'espère bien, sont souciés de cette matière et qui vont s'y impliquer. Mais s'ils ne le font pas, donc on sera en train de tourner à rond sans qu'on aboutisse à une solution.
Voilà, depuis quelques mois, on remarque une certaine tendance, n'est-ce pas, de ces groupes armés à pouvoir se rendre. En se rendant à ces moments-ci, peut-on faire crédit à ces groupes armés? Est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de chercher à obtenir par ces différentes redditions ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les armes?
Bon, je le crois bien. Je peux avoir tendance à penser ainsi, mais je crois obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les armes, la revendication doit être reconnue. C'est pourquoi j'ai dit que je doute même de la véracité de ces 800 combattants qui se rendent. Parce que s'ils se rendaient réellement, et qu'ils avaient la volonté de vouloir servir la République par tel ou tel autre moyen, ils seraient d'abord interrogés sur les mobiles de leur prise de position avant qu'ils ne se rendent. Et c'est à partir de ce qu'ils donneront en termes de réponse que l'État pourra décider qu'est-ce qu'il faut pour leur encadrement. Mais annoncer seulement dans une vague qu'un groupe s'est rendu composé de 800 combattants appartenant de l'identité et telle ou telle autre, oui, ça ne suffit pas. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas quelque part sous une motivation peut-être autre que nous ignorons? Parce que le commanditaire ou le leader ou celui qui les entretenait dans cette zone est connu, il est quelque part. Qu'est-ce qui l'empêcherait alors, au finish, s'ils n'ont pas trouvé, obtenu gain de cause à ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qui l'empêcherait de recourir aux mêmes moyens pour recruter et relancer la même aventure? Donc, toutes ces questions doivent être examinées sans passion, afin que, d'une manière définitive, on stabilise cette zone-là.
Didier Bitaki, vous êtes un ancien des groupes armés. Vous savez comment fonctionnent les rébellions en RDC. C'est des groupes armés qui ne fonctionnent pas de manière classique comme les autres rébellions, qui, lorsque elles posent des actes, elles ont toujours des revendications. Mais les nôtres ici, elles ne font pas des revendications. Et c'est souvent, quand il y a des tractations, n'est-ce pas, pour leur reddition, qu'ils essaient de manifester maintenant leur desiderata. Et pourquoi vous vous étonnez du fait que ces groupes armés, comme celui dont on parle aujourd'hui, celui de l'UPLC, n'a pas encore manifesté ses revendications? Pourquoi vous semblez vous étonner alors que c'est de cette manière-là que la plupart des groupes armés fonctionnent dans ces pays?
Le groupe armé fonctionne selon les réalités de chaque coin. Ce n'est pas parce que tel ou tel autre a eu telle motivation qu'il devient groupe armé et il doit fonctionner selon un standard quelqu'un. Non, c'est selon les réalités de chaque milieu où se trouve chacun de groupe que le fonctionnement, en tout cas, disons, que son fonctionnement sera basé sur cette réalité-là. Pour la question sous-examen ici, vous l'avez bien souligné que j'ai fui à son temps membre d'un groupe armé, il y avait des motivations qui ont fait que nous puissions entrer en résistance, c'est connu de tous. Quand nous avons constaté qu'il n'y avait plus de raison de faire la guerre, on a arrêté et nous avons rejoint la République. Mais la question de cette question ici autour de laquelle nous tournons aujourd'hui, c'est une question profonde et à la fois fondamentale qu'il faut examiner sans passion. Ces gens-là dont on parle ont déjà passé 5 mois dans cette zone. Quand ils étaient venus d'où? Ils étaient venus avec quoi? Ils ont déposé, c'est aujourd'hui qu'on annonce, bon, c'est la pression militaire qui a fait que ce groupe se rende. Mais ce groupe existe là depuis 5 mois, ils sont entre les mains de l'autorité. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà ce qui crée des frustrations et qui peut les renvoyer encore dans la brousse et reprendre les armes. Parce qu'on n'apporte pas de solution aux questions qu'ils posent. Ils ont des soucis, ils ont des revendications,
merci,
ils ont des demandes à faire au gouvernement, mais on ne répond pas 5 mois dira.
Merci.
Voilà, vous avez également l'exemple de l'Ituri. L'Ituri, le combattant commence à tirer sur les FARDC par frustration. Et puis il se disperse. Il y a mort parmi eux. Mais ces morts-là sont comptables à qui? On doit les mettre sous la responsabilité de qui? C'est de celui-là qui les avait invités. Ça constitue un crime qu'il ne faut pas tolérer.
Merci Didier Bitaki.
Oui, il ne faudra pas que les gens se contentent seulement des annonces. Il faut des faits, il faut aller avec des faits concrets qui facilitent les retours de la paix. Voilà.
On a compris, Maître Juvenal Mounoubou Moubi. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Moi, c'est Pepe Lissungi Botomoito. Je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Au départ, le processus de sensibilisation se passe très bien. Mais ce qui a toujours causé des problèmes, c'est le processus de la réinsertion à la vie civile qui, à chaque fois, les engagements pris ne sont pas respectés par l'État congolais. Comme ce n'est pas la première fois, je doute fort de la réussite de ce processus et de la neutralisation des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Un pays non respectueux des engagements avec une armée infiltrée car la plupart de ces groupes armés ont des liens avec certaines autorités tant civiles que militaires à Kinshasa.
Maître Juvenal Monubomubi.
Je suis parfaitement d'accord avec le compatriote Lissongi qui vient d'intervenir. Les maillons faibles du processus DDR, c'est réellement la réinsertion, la partie réintégration-réinsertion. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir réussi la sensibilisation, le désarmement, la démobilisation, mais souvent, il a été constaté que c'est à ces niveaux-là que les choses n'avancent pas. Et pour réussir la réinsertion, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord des moyens pour la réinsertion. Il faut aussi les suivis de la réinsertion, hein, suivi communautaire, autorité avec les leaders communautaires qui doivent s'impliquer pour les suivis. C'est très important. Il faut aussi que les kits, comme je le disais tantôt, soient adaptés aux milliers pour que ces kits ne soient pas vendus par la suite, parce qu'on a assisté à des cas où des démobilisés ont vendu des tôles, ils ont vendu des vélos, etc.
D'où la nécessité de ces DDR communautaires.
Un DDR communautaire permettrait d'éviter tout cela et de donner des kits adaptés aux milliers ou de donner des activités adaptées aux milliers. C'est très important d'impliquer le communauté et d'impliquer les députés aussi. Donc je suis d'accord avec lui à 100%. Mais je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit Didier Bitaki. Je ne pense pas que c'est une bonne approche de faire la stratification entre les groupes armés, de faire une différenciation qui aurait ceux qui sont plus structurés que d'autres, qu'il faudrait plus écouter ceux qui sont structurés. Moi, je crois qu'il faut les placer sur un même pied d'égalité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous qualifiés de forces non étatiques, en fait.
Ils ont tous la capacité de nuire.
Oui, ils ont tous des capacités de nuire. Et donc, il faut pratiquer une certaine ouverture par rapport au DDR. Donc, il faut dire, voilà, il y a encore une opportunité pour les DDR. Ceux qui veulent se rendre, ils vont intégrer les programmes DDR. Sous réserve, évidemment, pour, comme on le disait, hein, des cas de crimes, hein, on l'a déjà dit. Et donc il faut que le gouvernement montre cette disponibilité et surtout cette rapidité à saisir l'occasion, parce que s'il reste longtemps en cantonnement, ça risque de dégénérer, il risque d'être tenté de retourner dans la brousse. Et donc moi je peux proposer qu'il y ait une sorte des états généraux d'IDDR. Je ne sais pas si le ministre de la Défense y pense, mais ça serait important qu'il y ait des états généraux d'IDDR où les ministres, le gouvernement sera là, les partenaires extérieurs seront là, la société civile, les députés. Comme ça, ensemble, on essaie de voir comment valider un programme DDR adapté. Et une fois validé, il faut savoir ce programme sera financé comment. Il faut que le gouvernement, dans le budget pour l'exercice 2020, prévoie une enveloppe conséquente pour les DDR. Et il faut aussi que le mécanisme de suivi soit un mécanisme efficace, participatif, différent des mécanismes passés de suivi. Je crois que c'est important. Avec une forte implication de la présidence, je crois que c'est important, au-delà, en plus de tous ces contacts qui sont effectués, parce qu'il y a des contacts qui sont effectués, il y a des réunions, soit à Goma, soit à Bukavu, mais je crois qu'il faut organiser des assises vraiment nationales qui aboutiront à un DDR 3 validé avec une approche communautaire. Et qu'on sache le financement, la question du financement, comment est-ce qu'elle sera réglée, et la question des suivis communautaires.
Voilà, vous avez relevé un certain nombre d'obstacles, n'est-ce pas, qui ne permettent pas au DDR d'aboutir, notamment les problèmes de financement, les suivis, les kits appropriés. Mais il y a aussi un autre problème fondamental, c'est celui des conditions, n'est-ce pas, que souvent ces groupes armés posent. Hein. Parmi ces conditions, les groupes armés demandent une amnistie générale, ils exigent leur intégration dans les FRDC ainsi que la reconnaissance de leur grade. Ça, ce n'est pas une des pesanteurs, n'est-ce pas, pour l'aboutissement de ces différents DDR.
Je conseille au gouvernement d'être très réservé par rapport aux conditions qu'ils posent. Je sais qu'ils posent des conditions. Il y a ce qu'ils appellent le cahier des charges. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on revienne aux années 2008 avec la conférence de Goma où on a invité beaucoup de groupes armés. Je ne voudrais pas qu'on revienne à la situation de 2009 avec le CNDP. Je sais qu'il y a des groupes armés qui ont eu même des responsabilités. Et puis ça a affaibli. Lorsque vous faites un bilan, depuis qu'on a commencé à dialoguer avec des groupes armés dans ces pays, ça a affaibli aussi les processus de réforme du secteur de sécurité et des constructions d'une armée républicaine. Et donc, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas mettre l'accent beaucoup plus sur des dialogues avec des groupes armés. Il faut mettre plus l'accent sur les DDR. Donc, la possibilité pour ces miliciens, c'est d'intégrer un programme DDR et démontrer qu'ils peuvent être utiles à la société à partir des activités du DDR, des travaux communautaires à haute intensité de main-d'œuvre, comme je le disais, comme une route, les chantiers d'une route, par exemple. Et donc, il faut une approche vraiment intégrée où le ministère de la Défense est là et le ministère des Infrastructures est associé. Et des programmes comme Starec devraient aussi être associés. Et voilà, il faut agencer tout ça pour consolider la paix et éviter de retomber dans les erreurs du passé. Et donc, il faut être très réservé avec cette question, par rapport aux conditions de ces groupes. Par rapport, c'est vrai, il y a ceux qui demandent non seulement l'amnistie, il y a ceux qui demandent même des postes, il y a ceux qui veulent être intégrés. Donc, s'il était colonel ici dans les groupes armés, il veut être qu'on le reconnaisse comme colonel dans l'armée régulière. C'est ce qui a fait souvent que notre armée présente une forme atypique où il y a plus d'officiers. On a eu comme l'impression qu'il y a plus d'officiers que des hommes de troupes.
Mais ils ont aussi besoin de certaines garanties, n'est-ce pas, pour leur
des sécurisation? Des garanties, évidemment. Raison pour laquelle moi je n'exclus pas des possibilités d'amnistie. Et bien entendu, l'amnistie ne devait pas couvrir tous les faits. Et donc, c'est des questions qu'on peut examiner. Il faut pas fermer, surtout il faut pas fermer des portes qui s'ouvrent. Donc, s'il y a des groupes qui déclarent vouloir déposer les armes, le gouvernement devrait saisir l'opportunité d'un côté maintenir la pression militaire, le feu, et lancer les ultimatums, mais de l'autre accélérer les processus d'aider.
C'est comme ça, la politique du bâton et de la carotte.
Bâton et de la carotte, c'est ce que je conseille.
Didier Bitaki, vous allez réagir à cette réflexion qui vient une fois de plus de Kisangani.
Moi, c'est Aimé Tabudondo. J'appelle Kisangani, province de la Tchopo. Combien de fois ce pays a connu ce genre de scénario? La paix ne règne toujours pas à l'est du pays. À mon avis, c'est une façon que les miliciens cherchent d'occuper des hauts gardes militaires après la négociation et après un groupe va surgir encore sur la même zone, ainsi de suite. Surtout si le groupe se trouve dans un état d'affaiblissement, il cherche à négocier avec le gouvernement. Que la justice fasse son travail pour faire peur au groupe armé encore actif et soit en gestation.
Didier Bitaki.
Je partage à moitié l'avis de notre compatriote de Kisangani. D'un côté, il pourra avoir raison, mais permettez-moi de revenir sur ce que l'honorable Juvenal venait d'évoquer. Le problème de ce DDR-là dont il fait mention est un problème de gouvernance. Comment est-ce que le DDR est gouverné? Le DDR est gouverné militairement. Or, c'est un programme qui est censé être un programme civil, dirigé par des civils qui comprennent effectivement quel est l'objectif voulu par le décideur. C'est à partir de cet objectif-là, la connaissance et la maîtrise de cet objectif qui fera que le DDR aboutisse. Vous ne pouvez pas aller vers la réinsertion sans passer par la réintégration. Quand vous réintégrez quelqu'un dans sa communauté parce qu'il a cessé d'être milicien, c'est en ce moment-là que vous les réinsérez maintenant. Là où ça pose problème, c'est plutôt au niveau de la réintégration qu'au niveau de la réinsertion. Parce que quand on donne des kits à qui? On les lui donne où? Il est intégré où? Il est réintégré dans quelle communauté? Dans quelle société? Où qu'on les réinsère? Voilà là où ça pose problème. Mais l'autre question fondamentale est que, et il l'a évoqué, fermer la porte à ces miliciens-là qui ne devaient pas réintégrer l'armée serait une grosse erreur. C'est une faute grave. Parce que, comprenez, en tout cas, là, je ne mange pas les mots, je dois le dire, notre armée est constituée d'un assemblage de miliciens. C'est ça, effectivement, la base de notre armée. Et ces miliciens sont venus de différents milieux, là où ils ont opéré, dans le même contexte que celui que nous évoquons aujourd'hui. Alors, ces miliciens-là se retrouvent au sein des FADC, ferment la porte. Mais ils ont donné goût à ceux qui sont restés.
en donnant ces goûts-là, vous allez en finir comment? Eux ne veulent pas faire la vie civile. Beaucoup viennent et ils disent, moi, je vais être militaire. Est-ce qu'on l'encadre? Est-ce qu'on peut? Il y a une sorte de réorientation de ces gens-là, avec des programmes spécifiques qui peuvent être mis en place, juste pour leur encadrement, avant de les intégrer au sein des FARDC. Cela existe. Il y a un mécanisme qui peut les amener à ce niveau-là. Mais quand on ferme la porte, on n'est pas capable de les désarmer militairement. On n'est pas capable de les récupérer. On n'a pas de réponse à leurs revendications. C'est-à-dire que cette question sera éternelle. Il faut ouvrir la porte quelque part et permettre à ces miliciens de disparaître définitivement. Dans d'autres pays, vous avez évoqué la Colombie où j'ai été dans ce fameux DDR avec FEN, l'abbé Malumalu. En Colombie, c'était le même problème. Lorsque le gouvernement a refusé de reconnaître les grades et les différentes fonctions qu'assumaient les membres des FARC, en ce moment-là, la guerre a repris. Mais lorsqu'il avait accepté en 2014 que les FARC devraient finalement réintégrer l'armée, il y a eu accalmie. Mais la reconnaissance des grades de ces militaires venus de la brousse a posé problème au niveau de l'armée. La conséquence, c'est qu'ils ont encore quitté pour reprendre l'armée, donc pour reprendre plutôt la rébellion.
Didier Bitaki,
cette question ici a une solution, s'il vous plaît.
Oui, on peut aller déjà, on peut aller vers les solutions parce que nous sommes à la fin de l'émission. C'est quoi pour vous des solutions adéquates pour que les différents DDR puissent aboutir à la pacification durable de l'Est et de la RDC?
La solution, c'est la réforme et la refonte totale du DDR. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est qu'il faut utiliser les énergies ayant une expertise devant conduire ce programme de DDR pour permettre à ce que ce groupe-là cible puisse d'abord être bénéficiaire de ce programme de manière efficiente et ensuite que l'État atteigne son objectif de pacification à travers la réforme qui aura été faite et surtout de vider, d'évacuer, faire sortir tout ce qui l'anime aujourd'hui.
Merci.
Parce qu'ils ont été à la base du problème.
Merci Didier Bitaki. Maître Juvenal Mounoubo Moubi, votre conclusion, à part les états-majors, plutôt les états généraux, n'est-ce pas, des DDR que vous avez préconisés, que faut-il faire pour que les DDR puissent être une réussite?
C'est d'abord ça, mais aussi il faut maintenir la pression aussi, hein, la pression militaire, c'est très important, et ça pourrait même accélérer le DDR, hein, cette pression militaire, parce que si on rabat cette pression militaire, ça va être difficile de résoudre la suite, hein. Et donc il faut aller avec les deux solutions, et il faudrait aussi peut-être dans les très prochains jours qu'on puisse écouter les ministres de la Défense dans notre commission. Merci. Qui nous dit ce qu'ils pensent du DDR et de la restauration de l'autorité de l'État.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, à Kéline Couté qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Bonne suite de programme sur Radio Capi.